dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour une deuxième partie d'émission autour de la résistance dans le sud de la Sarthe. Nous sommes toujours en compagnie de Marie.
Bonjour.
De Jade.
Bonjour.
De Célian.
Bonjour.
De Monsieur Després.
Bonjour.
De Solal.
Bonjour.
Steve.
Bonjour.
Et nous allons écouter un extrait de l'épisode précédent.
Jusqu'au milieu de 1942. Le service militaire est supprimé. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va mettre le service du travail obligatoire.
Le STO.
Ils attendaient qu'on les place quelque part. Ils avaient fait un système de relève avant, qu'avaient proposé les Allemands, en disant vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin que les hommes rentrent à la maison, les enfants ont besoin de leur père, etc. Donc on va libérer des prisonniers de guerre français en échange de jeunes Français qui viendraient travailler en Allemagne. Mais le prix était cher, c'était 1 pour 10. Un prisonnier rentré pour 10 jeunes qui partaient. Et donc il y a eu des volontaires au départ. Et puis ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc ils ont décidé de mettre le service du travail obligatoire. Mais le STO, bah, ça prêtait un enthousiasme général. Les gars, ils n'avaient pas envie d'y aller. Je dis les gars, au début. Parce que les femmes n'étaient pas conviées au STO. Sauf qu'à un moment donné, à la fin de 1943, on a commencé à appeler des femmes au STO. Et là, on a commencé à dire « c'est beaucoup trop ». On ne va pas supporter ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars du STO? Eh bien, ils se sont sauvés. Ils ne sont pas allés aux convocations. Et c'est là qu'ils sont, allés dans les bois. Ils sont allés se planquer à droite à gauche. C'est là qu'on a créé ce qu'on appelle les maquis. Et ici, on va dire, on va pas aller travailler pour les Allemands. Alors il s'est passé quelque chose pas très loin d'ici, au Lude. Ça vous dit quelque chose, le Lude?
Oui, oui.
Au Lude, pour le 11 novembre 1943, il y a tous les gens qui devaient partir au STO qui ont décidé de défiler dans les rues du Lude avec un drapeau bleu-blanc-rouge. Ça n'a pas plu aux Allemands.
Pas trop, hein.
Ah non, ça ne leur a pas plu du tout, mais les Allemands qui étaient là ont dit bon. Ils s'amusent. C'était des vieux soldats qui avaient fait la guerre de 14 qui étaient là. Les jeunes soldats allemands, ils étaient en train de se battre sur le front russe. Et ils ont dit, bon, ben, on va pas. Mais la Waffen-SS et la Gestapo, eux, ils n'ont pas aimé. Donc ils ont laissé la manifestation se dissoudre et les gens rentraient chez eux. Donc il y a ceux qui sont rentrés chez eux, il y a ceux qui ont été boire un coup au café. Et ils ont laissé passer une semaine. Le temps de prendre les renseignements de qui étaient les gens qui étaient dans la manif. Et au bout d'une semaine, le dimanche matin, ils sont descendus dans toutes les familles où il y avait quelqu'un qui avait été dans la manifestation. Et ils en ont arrêté 42.
Sur combien ?
Sur 60 à peu près. Un peu plus de la moitié.
C'est beaucoup.
Ça fait beaucoup. Pourquoi ils n'ont pas arrêté les autres? Parce que les autres ont été informés par des réseaux de résistance qu'il fallait foutre le camp. Parce que sans quoi ils risquaient simplement d'être déportés en Allemagne. La déportation, on commençait à en parler beaucoup à la fin de 1943. Avant, on ne savait pas trop. Ils étaient prisonniers en Allemagne. On ne savait pas dans quelles conditions. Mais là, il y a des journalistes américains qui ont commencé à passer des photos qui était arrivé en fraude dans la presse. Et les gens se sont rendus compte que, wow.
Ça rigole pas, quoi.
Non, ça rigolait pas. T'as raison, ça ne rigolait pas du tout. Bon, donc, ça, c'est ce qui arrive en 1943.
Et qu'est-ce qu'ils deviennent, alors? Ces gens qui sont arrêtés, ces 42...
Alors, ceux qui sont arrêtés, sur les gens du Lude, ils ont tous été emmenés à Drancy. À Drancy, il y en a... Je crois qu'il y en a 6 ont été mis de côté parce qu'ils étaient en santé défaillance, et tous les autres ont été déportés. Et sur le nombre de déportés, je crois qu'il y en a, une douzaine qui ne sont pas rentrés. Je n'ai pas le chiffre exact dans la tête. Mais bon, ça se passe dans notre petit monde du Sud-Sarthe. Au mois de septembre 1943, il y a un parachutage qui tourne mal à Dissé-sur-Coussillon. Le groupe de ramassage des conteneurs, vous savez ce que c'est un conteneur ?
Oui.
Hein ? C'est un...
un gros bloc en métal, là où on transporte des choses dedans.
Voilà. Donc, les conteneurs métalliques font 180 kilos. On ne peut pas ramasser ça du bout du doigt. Et là, ben, il en manque un. Impossible de trouver. Il y en avait 12. Il n'en ramasse que 11. Le groupe de ramassage est mené par le médecin qui commande le groupe de l'armée secrète de Château-du-Loir, le docteur Good. Et ils disent, bon, c'est absolument qu'on le trouve, quoi, ce conteneur. Alors, ils ne le trouvent pas, mais il y a des paysans qui vont le trouver et qui vont aller l'amener à la commandanture en disant « Combien vous nous donnez contre ça ?» À partir de ce moment-là, les Allemands ont mis en route tout le système de répression. Ils ont les gens qui ont ramené ça, qui savent où ils l'ont ramassé, donc où était la zone de parachutage. Ils vont ouvrir le conteneur, et dans le conteneur, ils vont trouver de l'armement, etc. Ils vont trouver de la nourriture aussi, ils vont trouver du vrai café, ils vont trouver des... Et ils vont se mettre à se renseigner très très vite, en disant qui y avait là. Le docteur Good est arrêté dès le lendemain. Ça, c'est le 8 septembre, le 11 octobre 43, après que tous les gens de la zone de parachutage aient été arrêtés et torturés de manière horrible, certains vont parler. La règle dans la résistance était de dire il faut essayer de résister à la torture pendant au moins 48 heures pour permettre aux autres de se sauver. Mais là, il y en a qui ont craqué, qui n'ont pas pu. Non. Je vous décris pas les tortures, mais elles étaient horribles. Donc, ceux qui vont parler vont entraîner la chute d'autres réseaux, en particulier le réseau de Serrant-Foulletourte. Le Serreau, qui est un réseau Buckminster, quand vous allez à Serrant-Foulletourte, sur la droite en allant vers le Mans, vous avez un grand monument. C'est le monument de tous ceux qui ont été arrêtés. Certains ont été fusillés sur place, les autres ont été déportés. Et là, vous vous rendez compte que le nouveau système de police allemand fait qu'ils vont faire systématiquement. Et ils vont prendre tous les réseaux les uns après les autres. C'est bien qu'à la fin de 1943, il n'y a quasiment plus de réseaux dans le Sud-Sarthe. On continue. Bon, donc, fin 43, les choses ne s'arrangent pas. Les Allemands sentent que ça va mal, parce que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, puis après en Sicile, puis en Italie, et ils sont en train de remonter vers la France par le sud. Donc les Allemands ont dit on ne peut pas laisser faire ça. Donc les Allemands vont envahir la zone sud. Et là, tout va basculer, parce que là, ils ne sont pas contents. Et donc la répression va aller partout. Le rôle de la zone nord, là, c'est de bloquer le plus possible les renforts vers le sud et de se préparer à un débarquement, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais il faut s'y préparer. Donc tous les réseaux de résistance, tous les groupes reçoivent des messages disant « Attention, 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 préparez-vous ». En même temps, on va augmenter les parachutages d'armement, de munitions, de médicaments, de nourriture, et d'argent. Il est bien évident qu'à chaque fois que des parachutes descendent, il ne faut pas que les Allemands les voient. Donc ça va se faire la nuit, ou en fin de nuit, au petit matin. Sur cette fin de 1943, on a vu qu'il y avait eu l'arrestation du docteur Good après un parachutage à Dissay sur Courcillon. Et le 11 octobre 1943, ça va être Alfred Auduc du réseau de Serrant-Foulletourte. La Gestapo, donc vous rappelez ce que c'est que la Gestapo, c'est la police politique allemande qui est commandée par la Waffen-SS, par les SS, et la Sipo-SD, qui est une deuxième police, moins militaire, plus civile, mais qui vont se grouper. Je vous avais expliqué qu'on était dans le triangle maudit Le Mans-Tours-Angers, et que là, toutes les forces allaient converger pour être les plus répressifs possibles. Bon, on en est là ?
Oui, oui.
Ok. Donc on va arriver en 1944. L'hiver 43-44 est un hiver très dur, fait très froid. Et il n'y a quasiment plus rien à manger. Nous, à la campagne, j'allais dire, on arrive encore à avoir un jardin potager, à avoir des lapins, à avoir des poules, et arriver à se débrouiller, même si les Allemands font des prélèvements importants pour leur consommation personnelle. Mais en ville, ça devient dramatique. Il y a les tickets, et on est rationné, et les rations descendent. On arrive à 350 grammes de pain par personne et par semaine. Vous voyez ce que ça donne ?
Une baguette et demie.
Ça fait pas beaucoup. 1944, ça va être l'année de la libération, mais c'est ici, dans le coin et ailleurs, mais ici, c'est l'année des bombes. C'est l'année des bombardements, et des bombardements très, très importants. La résistance se lance dans toute une série de sabotage. Vous savez ce que c'est qu'un sabotage ?
Oui.
C'est quoi ?
Bah, c'est par exemple qu'ils vont faire sauter des trains, des choses comme ça.
C'est ça, oui.
Vous avez dit des bombardements, mais des bombardements alliés ou allemands ?
À ton avis.
Allemands ?
Eh non, alliés. Les Allemands n'ont quasiment plus d'aviation de bombardement. Elle est en train de bombarder à l'est sur la Russie.
Ah oui.
Et donc ici, il reste de l'aviation de chasse, on appelle l'aviation de chasse une aviation plus légère que l'aviation de bombardement, et qui va attaquer sur les routes, sur les convois, sur les choses comme ça. Les bombardements allemands sont vraiment, vraiment très lourds. Je vous ai amené un détail, je ne sais plus où je l'ai mis, parce que dans vos listes de questions, je ne sais pas qui a mis ça, on parle des photos de Moncey.
Oui.
Qui c'est Kek ? C'est toi ?
Oui.
Tu les as vues ces photos ?
Oui.
Alors c'est quoi ?
Des militaires.
C'est des militaires, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des aviateurs. Et ça a été après le 23 mai 1944. Il y avait un quadrimoteur, donc un gros bombardier Avro Halifax, donc anglais, qui revenait de bombarder la gare du Mans, donc il volait nord-sud, d'accord, entre Le Mans et Moncey, et à la limite entre la gare de, c'est pas la gare de voyageurs, la gare de côté du terrain d'aviation, le terrain d'aviation était occupé par des chasseurs allemands, et là il était protégé par des batteries de canons anti-aériens qu'on appelait la FLAC, et ce bombardier là a été touché par la flaque. Le pilote a essayé de maintenir son avion le plus loin possible, de façon à ce qu'il ne s'écrase pas sur les maisons.
Oui.
Et il a été s'écraser dans le bois de Moncey, à côté du virage du circuit d'arnage. Si vous passez par là, si tu passes par là avec tes parents, quand tu reviens du Mans en allant vers Saint-Gervais, Moncey, à 300 mètres du virage, à gauche, il y a un petit chemin qui rentre dans les bois. Bah, demande à papa-maman de rentrer là et d'aller voir le petit monument qu'il y a au bout. Le monument était construit là où l'avion s'est écrasé. Dans cet avion-là, alors c'est le Halifax MZ-506Q0 de la Royal Air Force, qui est parti de la base de Scampton en Angleterre, avec une mission de bombardement sur la gare de triage du Mans. À son bord, il y avait 8 jeunes gens, de 21 à 24 ans, pilotes, navigateurs, radio, etc. Il y avait 6 Canadiens, un Australien et un Anglais. Ils sont tous morts quand l'avion s'est écrasé. Et donc, les photos que tu as annoncées, c'est des photos de ces 8 pilotes, entre guillemets, aviateurs, qui se sont écrasés dans le bois de Moncey.
Merci.
Voilà. Les bombardements vont continuer à se faire là, sur les voies ferrées, sur les routes importantes et le long de la vallée du Loir, sur les ponts, sur les dépôts d'Aubigné-Racan, sur Vasse, sur Torré, et puis partout où il y a quelque chose qui bouge et qui est allemand. Mais là, ça va être la chasse, ça va pas être les bombardiers. Il y a eu le bombardier de Moncey. Un autre bombardier a été touché à Aubigné-Racan, justement, le 5 janvier 1944. Ce bombardier-là était un bombardier B-17 américain. Il était appelé Baby Dumpling, le bébé qui fait des crottes. Il est au retour d'une mission de bombardement sur la ville de Tours. Et au retour, il est attaqué par des chasseurs allemands. Alors là, ce sont des avions qui vont l'attaquer par dessous et par derrière. Ils vont toucher 3 moteurs sur 4. L'avion, il va s'écraser. Tout le monde a sauté en parachute. Donc, on est tranquille. Mais il y en a un qui n'a pas de chance, c'est le pilote, le lieutenant William Walker, qui va tomber au milieu de l'avion écrasé qui brûle. L'horreur. Parmi ceux qui sont descendus, le lieutenant Zeeman, le sergent Leroux, le sergent Chevreau sont récupérés par la résistance locale. Alors, je ne peux pas dire quel groupe, parce que j'en sais rien. Hein, je sais simplement que c'est la résistance qui l'a récupéré, mais je ne sais pas quel groupe. Et ils vont repartir en Angleterre et ils vont recommencer le combat. Ils vont reprendre leur poste sur un autre avion. La résistance, où elle en est, la résistance en 1944. Eh bien, la résistance en 1944, elle continue à résister, tout bêtement. Il y a la liste sur la Sarthe, il y a le réseau Max Buckmaster, qui est tenu par un ancien élève de l'école normale supérieure. Il y a un réseau, là, sur la vallée du Loir, qui s'appelle l'entreprise Champignon. Le créateur, c'est M. Dutilleul, qui est directeur du ravitaillement pour le département, et donc est plutôt du côté du gouvernement en place, mais qui joue double rôle. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Chinchilla. Le Chinchilla, le chef, c'est Alain Nicot. C'est le secrétaire général du comité interprofessionnel du chanvre, la culture du chanvre en Sarthe. Vous savez ce que c'est ? Bon, vous vous renseignez, c'est une plante qui pousse encore, et la Sarthe est un des plus grands départements, qui sert à faire du textile. On en faisait des bâches avant, des bâches pour les camions, etc. Et donc ces gens-là allaient dans les fermes et pouvaient se déplacer. Et donc c'était précieux quand on était dans la résistance de pouvoir se déplacer avec ce qu'on appelait un Ausweis, un laissez-passer de l'armée allemande. Alain Nicot a été arrêté à la fin de 1943 quand même et a été déporté. Le circuit sacristain, c'est lui qui est responsable du parachutage du 14 septembre 1943 sur la zone de parachutage de Chambrun. Chambrun, c'est juste au nord de Luché-Pringer. Le circuit sacristain, donc, c'est un réseau qui est lié au service secret américain, l'OSS, L'organisateur et le commandant américain Floch, qui est ce commandant américain, comment il arrivait là? C'est tout bête. Son père était soldat américain dans l'armée américaine en 1917, 18, 19. Quand la guerre de 14 s'est terminée, toute l'armée américaine est revenue se concentrer dans la Sarthe. Il n'y avait plus d'Américains dans la Sarthe que d'habitants. Ça vous dit quelque chose, ça? Donc, ils s'installent là. Tout le grand camp américain, c'est toute la zone industrielle sud d'Arnage, depuis Arnage jusqu'à la rivière, de l'autre côté, c'est-à-dire jusqu'à Alon. Alors, c'est assez long quand vous traversez ça. Tout ça, c'était le camp américain. Et au moment de repartir, ils attendaient tous pour réembarquer, pour partir en Amérique. Le papa du commandant Floch, il est tombé amoureux d'une petite Française sartoise et ils sont mariés en Sarthe. Puis après, il fallait qu'il rentre en Amérique, il était soldat, il fallait qu'il rentre, et il emmenait sa femme avec lui. Donc ils sont partis s'installer aux États-Unis, ils ont eu un fils, et ce fils-là, en 1944, était lieutenant dans l'armée américaine comme son père l'avait été, et a été volontaire pour être parachuté en France pour aider les résistants. Ah, c'est une drôle d'histoire. Hein. Donc il était bilingue, anglais et français. Et ça, c'était quand même un bel outillage pour faire de la résistance. Le réseau Hercule, avec pour chef André Dubois, dit Hercule. Alors là, vas-y.
Non, mais c'est parce que mon famille, c'est Dubois.
Eh bien, renseigne-toi, c'est savoir si t'as pas quelqu'un qui était surnommé Hercule.
Prénommé Hercule. Moi, surnommé Hercule.
Tu peux dire, papa, c'est toi qui t'appelais Hercule.
Et dans la résistance, il n'y a pas de brossard ou de pain fond, non? Non, rien.
Si,
non, en gros, c'est parce qu'il y a Félian, il y a Golipo, il y a Steve, il y a Dubois, et puis c'est drôle, quoi.
Solal, il aimerait bien qu'il y ait un résistant dans sa famille, hein. Un pinson ou un brossard.
Mais ils habitaient pas en Sarthe.
Bon,
alors c'est Hercule.
L'armée secrète, qui est un réseau qu'on appelle souvent l'AS, l'abréviation. C'est un réseau qui est conduit par Pierre de Vaumécourt. Et sur la zone ici, l'armée secrète est très, très fortement implantée. Elle a un commandant en second qui s'appelle Jean de Mayinel, le marquis La Roche-Mailly, à Recueil. Et ce marquis-là est un personnage assez haut en couleur. Il était capitaine de la Légion étrangère, donc c'est un officier de métier dans un régiment qui sait faire. Il avait ses petites idées à lui. Il avait décidé que lui ne commanderait que sur son territoire, c'est-à-dire le domaine de la Roche-Mailly, qui est un grand domaine, hein. Ça fait quand même quelques centaines d'hectares. Et il va jouer un rôle important sur cette zone-là. Et là... quand je viens d'ici à partir de Saint-Bien-en-Belin par la petite route de Pont-Valin derrière, je passe à côté d'un endroit où il y a une chapelle. Et derrière cette chapelle, à gauche, il y a une petite maison qui s'appelle La Grange. Et cette maison-là, M. de La Roche-Mailly s'en servait pour planquer des résistants, récupérer des pilotes qui étaient tombés en parachute, les mettre là en attendant d'être dispersés après. Le groupe, dans le même groupe hein, de l'OAS, le groupe de Maurice Beignet tient Vasse. Maurice Beignet est le directeur de l'école publique de Vasse. Jules Hérin, qui est agriculteur à Saint-Germain-d'Arcée, et Achille Mestaille vont tenir cette zone-là. S'ajoute à ça Monsieur Moral, qui est au château de... Non, j'ai oublié le nom. Non.
Ça fait combien de groupes de résistants, du coup? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résistants de groupes différents dans le sud de Sarthe.
Alors, c'est des groupes différents, d'obédiences différentes au niveau politique et au niveau intellectuel aussi, et au niveau intérêt aussi. Et surtout que la police allemande est tellement proche qu'il faut fragmenter au maximum, de façon à ce que tout tombe pas. S'ils arrêtent un groupe, qu'ils arrêtent, que tout le monde tombe, quoi.
Ils arrivent à s'entendre quand même entre résistants, entre groupes différents?
Ils arrivent à s'entendre par la force des choses. Mais certains groupes sont plus copains avec d'autres, d'autres sont moins. C'est pas simple, mes bons enfants. C'est pas simple du tout. Un troisième groupe, c'est l'ORA, l'organisation de la résistance dans l'armée, avec l'organisation TAM, T comme Touraine, A comme Anjou, M comme Maine. Et c'est une organisation militaire, strictement militaire. Et à l'intérieur de l'armée d'armistice, et qui a décidé que quand le temps sera venu, c'est-à-dire quand le débarquement aura lieu, quand l'attaque se fera, l'ORA interviendra comme des militaires en tenue, avec les galons qu'ils avaient, ils viennent tous de l'armée, et attaqueront tous les arrières des Allemands pour éviter qu'ils attaquent les gens qui débarquent. Une autre organisation civile et militaire, c'est l'OMC, l'Organisation Militaire et Civile, et le groupe du Loir-et-Cher, Sarthe. Le créateur, c'est Henri Goud, de Château du Loir, et il rejoindra le réseau Buckmaster après.
On arrête là. Ça fait combien de résistants à peu près sur le secteur ?
On a su combien il y avait de résistants qu'après la guerre, sur déclaration. Et donc, il y a des gens qui n'ont jamais voulu dire qu'ils étaient résistants. Ils ont fait ça par modestie pour la plupart, hein, en disant non. Nous, on a servi la France, on s'est battu, mais on n'est pas là pour récupérer, faire coco, c'est les médailles, le machin, c'est pour moi. Et j'en ai connu, maintenant il n'y en a plus beaucoup de survivants, j'en ai connu qui m'ont dit, mais mon pauvre gars, on s'est pas battu pour ça. On s'est battu pour que tu sois là, il soit là, que vous soyez là, et que les Allemands fichent le camp. Bon, c'est tout. Sur la Sarthe, les chiffres mis par l'association des anciens combattants, c'est de l'ordre de 3000 combattants. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?
Pour les bombardements, c'était des avions. Comment ? Parce que vous avez dit qu'il y avait un avion avec des canons et une seule bombe. Mais alors, pour les bombardements, c'était...
Alors, les bombardements, c'était des avions qui faisaient 35 à 40 mètres d'envergure, de largeur d'aile, bimoteurs ou quadrimoteurs, et qui transportaient des tonnages de bombes vraiment impressionnants. Pour répondre à cette question-là, le bombardement de Vass, dont j'ai parlé la dernière fois, il y avait en deux vagues, une vague de 20 et une vague de 30. Ils étaient divisés en deux groupes. Le premier groupe qui devait bombarder Vass contenait 136 tonnes de bombes.
Une bombe, ça pèse combien ?
Eh bien voilà, c'est ce que je vais te dire maintenant. Donc, pour celui-là, pour le groupe 1, il y avait 196 bombes de 1000 livres. Alors, une livre, ça fait combien ? 0,5 kg, multiplié par 1000. Donc, ça fait 500 kilos. Et 84 bombes de 500 livres, donc la moitié. Le groupe numéro 2, donc ça fait un total de 136 tonnes.
Toutes les bombes ont été lâchées ?
Oui, bien sûr. Toutes n'ont pas explosé, okay. Mais la plupart ont explosé. Le deuxième groupe sur Aubigny a largué 218 bombes de 1000 livres, 68 bombes américaines de 1000 livres et 104 bombes de 500 livres. Ce qui fait un total de 338 tonnes. Les deux groupes cumulés, ça fait 474 tonnes de bombes.
Du coup, comment ils faisaient pour mettre des bombes de 500 kilos dans les avions ?
Alors, les avions, les bombardiers se chargeaient par en dessous, par l'endroit où les bombes tombaient. Donc, pour les charger, il fallait faire l'inverse, il fallait les monter dedans. Donc, on ouvrait deux portes sous le ventre de l'avion, et ils arrivaient avec des petits tracteurs avec des chariots, et sur les chariots, il y avait une ou deux bombes, une bombe de 1000 ou deux bombes de 500. Dans la cabine, il y avait une mâchoire qui descendait, qui prenait la bombe, qui la remontait et qui la mettait sur des petits supports, des petits berceaux. Une fois que tout ça était chargé, on refermait les portes et l'avion pouvait décoller. Mais il était quand même un petit peu plus lourd au décollage. Et donc, il fallait faire très attention au décollage. Les décollages étaient très risqués. Il fallait que l'avion arrive à décoller et qu'il ne s'écrase pas au bout de la piste.
Vous aviez dit tout à l'heure en off, avant l'émission, que le taux de survie des résistants dans la Sarthe faisait partie des moins longues.
Ce n'était pas une exception, mais pour être valorisé, il faut que les gens soient présents. Or, les deux tiers des résistants de la Sarthe ont été déportés. Et donc, pendant qu'ils étaient dans les camps de concentration, ils ne pouvaient pas valoriser ce qui s'était fait sur le terrain. Les déportés sont rentrés ici qu'au mois de juin 1945. Donc un an après la libération. Si bien que quand on dit la Sarthe est libérée au mois de mai 1944, oui, mais pas la France. Il y a encore un an de combat où les armées américaines, les armées anglaises, les armées polonaises, la 2e DB française remontent vers l'Allemagne en repoussant les Allemands. Mais il va falloir un an. Et un an, c'est long. Hein. Il va y avoir encore beaucoup de gens tués, de gens martyrisés pendant cette année-là. Même si en Sarthe, on fait la fête. Mais on va pas faire la fête très longtemps. Or, les familles de prisonniers ne font pas la fête. Les familles de déportés ne font pas la fête. Et ceux qui font la fête, c'est souvent ceux qui n'ont rien fait. Hein. Ce qu'on appelait les résistants de la dernière heure, qui se sont affublés d'un brassard après la libération, quand il n'y avait plus de combat, qui ont fait des choses qui ne sont pas dignes, comme tondre les femmes qui avaient eu une attitude soi-disant compromettante avec les Allemands. Or, qu'une Française tombe amoureuse de 20 ans, tombe amoureuse d'un soldat allemand de 20 ans, moi, ça ne me choque pas. Mais que des jeunes qui n'ont rien fait, etc., viennent après faire la justice, ça me choque. Vas-y.
Après, on peut les comprendre. Les gens, peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord avec les nazis, mais peut-être qu'ils avaient peur de résister.
Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais rien n'était simple. Ça non plus, c'était pas simple.
Et alors, ces femmes, justement, ces femmes dans la résistance.
Alors, les femmes dans la résistance.
Parce que vous parliez des femmes tondues, mais peut-être que certaines étaient aussi.
Oui, il y avait des femmes aussi de l'autre côté, mais. Les femmes dans la résistance, il y en avait moins que des hommes. Et il y en a une que j'aime bien. C'est une princesse. C'est la princesse Noor Inayat Khan. Son nom de guerre, c'était Nurse ou Madeleine.
Nurse ou Madeleine. Vous découvrirez ce qui s'est passé pour cette princesse résistante dans une prochaine émission. Je remercie chaleureusement Monsieur Després d'être revenu au studio pour nous raconter en détail la situation des Sartois et de la résistance entre 1943 et 1944. Ainsi que les élèves Steve, Solal, Célian, Marie et Jade pour leur écoute et pour leurs questions. Les morceaux Nymphéa et Nuages de Django Reinhardt nous ont de nouveau accompagnés au fil du récit. L'émission a été montée et réalisée par Marion Vendée. Et avant de la clôturer, on écoute l'épisode 6 du Tueur Maléfique, écrit et lu par Steve. On se retrouve la semaine prochaine avec les radioteurs de la Cour des Grands pour échanger autour de l'ASMR. Très bonne semaine à l'écoute de Radio Prévert.
L'histoire du tueur maléfique présenté et écrit par Steve. Épisode 6. Précédemment, Minato et Jiraiya se sont téléportés à Konoha. Ils ont appris deux nouvelles attaques. Ils se sont combattus pour s'entraîner. Suite. Minato et Jiraiya essayent de trouver Itachi Uchiwa pour créer un trio légendaire. Minato dit à Jiraiya que Itachi est parti en mission de rang A. Pour éliminer un certain Kizami Oshigaki. Donc, ils se disent entre eux de le retrouver et de le ramener pour combattre Ishiki. Il se dirigea vers Kiri, un des 5 grands pays du monde ninja. Soudain, il voit un ninja de Kiri très affaibli, en train de courir à pleine vitesse. Et juste après, ils entendirent « Katon, souffle infernal du dragon !»« Suiton, les 2 dragons de l'eau !»« Technique combinée, souffle impérial des 3 dragons, Inferno !» Le ninja de Kiri semble englouti par cette attaque exceptionnelle. Que va-t-il se passer? On le saura dans le prochain épisode du Tueur Maléfique à suivre.